j'ai plutôt tendance à dire que je vends du bien-être au travail pour les salariés de mes clients, parce que quand mon salarié, il est heureux dans son job et qu'il prend soin de l'espace de travail des salariés de nos clients, eh ben, il va participer à la performance de l'entreprise de nos clients par ce biais-là, en fait.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, entièrement dédié aux entreprises à mission. Il est complété d'une newsletter hebdomadaire du même nom que je vous invite à découvrir pour plonger davantage dans l'univers de ces sociétés. Au micro, je reçois des dirigeants d'entreprise, des managers de mission qui expliquent leur motivation, leur cheminement vers l'entreprise à mission et les actions lancées depuis, mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet sociétal. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Muriel Fournier, gérante d'Espace Propreté, une entreprise montpelliéraine d'entretien de locaux professionnels. J'ai eu l'occasion de découvrir la mission de l'entreprise il y a un an maintenant, lors de son passage en société à mission. Je l'avais trouvé bien formulée et je me suis dit que j'allais profiter de mon passage à Montpellier pour échanger avec Muriel. Cet entretien a été l'occasion d'aborder évidemment la manière dont la mission a été formulée et les raisons de cette démarche, et vous verrez, elles sont assez étonnantes, mais on a également parlé de reprise d'entreprise. En effet, Muriel a repris Espace Propreté il y a quelques années suite au départ à la retraite des deux dirigeants fondateurs. Et je trouve qu'il y a quelques tips utiles qu'elle donne pour vous, si vous caressez l'idée de reprendre une entreprise. On a également beaucoup parlé de l'humain, comme clé de voûte du fonctionnement de l'entreprise, dans des métiers où franchement c'est pas toujours le cas. J'ai beaucoup aimé l'approche de Muriel sur la confiance, l'autonomie, l'envie d'accompagner ses équipes à grandir et à prendre confiance. Vous verrez, ça transpire dans ses propos. Sans plus attendre, je laisse place à l'écoute. Bonjour Muriel.
Bonjour Vivien.
Eh bien, merci beaucoup de m'accueillir ici dans les locaux d'Espace Propreté à Montpellier. Je suis vraiment ravi de pouvoir enregistrer cet épisode. Parce que j'ai décrypté la mission d'Espace Propreté il y a quelques temps. Je la trouvais plutôt bien formulée. Alors même si tu vas me dire qu'il y a des modifications, etc. Mais en tout cas, je l'avais trouvée bien formulée quand j'avais fait le décryptage. Deux, parce que je trouve qu'Espace Propreté évolue dans un secteur qui est hyper intéressant, parce qu'on se dit pas forcément que c'est un secteur où il va y avoir des sociétés à mission, et pourtant il y a beaucoup de choses qui se font, et je me souviens, j'avais rencontré d'autres acteurs par le passé, et je trouve que c'est vraiment hyper intéressant, et il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi chez Espace Propreté, donc ce sera intéressant de revenir dessus. Et le troisième point, c'est qu'en fait j'utilise souvent Espace Propreté comme exemple, moi, dans mes présentations, et donc je me suis dit que c'était plutôt pas mal d'en savoir un peu plus. Mais bon, avant cela, quand même une petite présentation de toi, et je te laisserai corriger, amender, ajouter des éléments. Donc Muriel Fournier, je dirais que tu es une épanouie. Il y a quelques années, tu as déclaré, ce qui en surprendra probablement plus d'un, « Je dors mieux depuis que je gère Espace Propreté que lorsque j'étais salarié ». Là, je te cite, hein, c'est donc on ne reviendra pas trop, hein, de fait, sur ton parcours de salariat, qui t'a amené à toucher quand même à pas mal de métiers et de fonctions assez différentes, mais aucun dans l'univers du nettoyage professionnel. Et donc l'envie de reprendre une entreprise, j'ai l'impression que c'était un peu ça qui te titillait, un projet stimulant, c'est ça qui t'a amené vers Espace Propreté. Les propriétaires à l'époque cherchaient une transmission, ce que j'ai compris, qui avait quelqu'un qui partageait leurs valeurs. Et je pense qu'on y reviendra assez rapidement. Donc là, on est en 2017, et t'as accéléré sur pas mal d'aspects, mais il y avait quand même déjà un terreau assez fertile, et notamment tu as mis vraiment l'humain au cœur de l'entreprise. Alors je reconnais volontiers que c'est hyper tarte à la crème comme expression, mais j'ai pas trouvé mieux. J'ai vraiment l'impression que c'est quand même quelque chose qui est assez fidèle à la réalité. T'as été depuis récompensé de plusieurs prix en tant qu'entrepreneur responsable, et même Espace Propreté a été reconnu aussi entreprise responsable aux ERE, mais bon, on va y revenir dans un instant parce que c'est un élément assez important. Et puis, bah, je sais pas, parce que peut-être que tu t'ennuyais un petit peu, t'as cofondé les Nouvelles Grisettes, qui s'est développé de fabricant de masques à un tiers lieu de la mode éco-responsable sur Montpellier, qui a pignon sur rue, hein, parce que je l'ai vu effectivement. Et à tes heures perdues, eh bien, tu fais de l'improvisation théâtrale aussi. Et on y reviendra un peu plus tard dans le podcast. Est-ce qu'il y a des éléments que tu souhaiterais ajouter ou corriger?
Alors, légèrement corriger un élément, le côté tarte à la crème de centrer sur, enfin, le fait d'avoir mis l'humain au cœur de la société. En fait, il y était déjà au cœur de la société. J'ai fait que mettre en lumière le travail des anciens dirigeants parce que c'était déjà une valeur très forte dans l'entreprise.
D'accord, autant pour moi alors.
Mais non, mais c'est pas une erreur, c'est juste que avant ça se voyait peut-être moins parce que les anciens dirigeants communiquaient peu. Il y avait encore cet adage pour vivre heureux, vivons cachés. Donc c'est un mode managérial, un mode de gestion d'entreprise qui a évolué aussi entre avant la reprise d'Espace Propreté et mon arrivée en 2017 en fait.
Alors peut-être pour commencer, une manière un peu détournée, on va justement parler de ce prix qu'Espace Propreté a reçu, donc de l'entreprise responsable et engagée. Pourquoi ?
Parce
à
que
ton avis, hein.
Pourquoi on a reçu le prix ? Déjà parce qu'on a postulé, c'est une démarche aussi de la part d'Espace Propreté, c'est une démarche de ma part de vouloir faire reconnaître notre action. Je pense que c'est très bien de s'engager, mais si on le fait pas savoir, c'est un peu dommage. Ça enlève pas la vertu de ce qu'on met en œuvre et de ce qu'on met en place, mais je trouve que le faire savoir, ça permet aussi déjà d'être reconnu par ses pairs et d'apporter aussi de la fierté à l'équipe parce que du coup les clients viennent en parler à nos salariés et du coup c'est voilà ça cette mise en lumière permet aussi de valoriser toute l'équipe et pas forcément d'être juste dans la congratulation en interne en fait.
D'accord.
On a postulé, en fait, le prix ERE, c'est un prix qui a lieu tous les ans, qui est organisé par la CPME 34, qui est là pour mettre en lumière les TPE-PME, principalement, qui ont envie de montrer, en fait, ce qu'elles font et de prouver, finalement, que toutes les entreprises ont fait toutes un peu de RSE. On a l'impression de ne pas en faire, parce que beaucoup de chefs d'entreprise trouvent que trier leurs déchets, c'est juste normal. Et en fait, au travers de ces prix, qui sont vraiment hyper simples, le dossier est très, très abordable. C'est comme ça qu'a été imaginé ce prix. C'est vraiment de pouvoir permettre à toute entreprise qui a envie, dans les roues, en fait, de montrer son engagement et ses valeurs, de pouvoir le faire très simplement. Donc, on avait postulé sur plusieurs catégories. On a été finaliste sur deux catégories en relation avec les ressources humaines, sur le management inclusif et sur les nouveaux modes de management. On a été finaliste, on n'a pas eu le prix sur ces deux-là, mais par contre, on a eu le prix sur l'engagement sociétal. Ce prix me tenait vachement plus à cœur finalement que les deux autres. Pourquoi ? Parce que je trouve que il englobe un peu tout dans la RSE. L'engagement sociétal, c'est tout ce que l'entreprise fait pour toutes ses parties prenantes et pas mettre en lumière uniquement sur la partie RH ou sur la partie achat. Donc moi, je trouve que ce prix en fait c'est le plus beau des 7 ou 8 prix ERE.
D'accord. Alors on va faire un petit rétro-pédalage. On va revenir en 2017 quand tu as repris Espace Propreté. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que l'entreprise existait déjà depuis un bon moment, hein, 1998, je crois.
C'est ça, ouais.
Donc pourquoi toi, est-ce que tu t'es décidé en 2017, parce que c'est quand même une réorientation assez importante par rapport à ton métier d'avant. Tu venais pas du secteur. Pourquoi tu t'es dit, tiens, là j'ai envie de me lancer dans la reprise de cette entreprise en particulier ?
Alors, en fait, ça s'est fait en deux étapes, je dirais, dans ma réflexion. La première étape, ça a été de me dire, quand j'ai perdu mon emploi salarié, suite à un licenciement économique, j'avais du temps pour me reclasser. Et la réflexion, ça a été de me dire, est-ce que je crée ou est-ce que je reprends une entreprise ? Donc déjà, premier positionnement, quel type d'entrepreneuriat je développe ? Et du coup, j'ai décidé de me lancer vers la reprise parce que la création d'entreprise nécessitait déjà d'avoir une idée que j'avais pas. Ça demande d'être un très bon commercial quand on crée une entreprise et il n'y a pas de nécessité d'être un bon manager. Sauf que moi, mes compétences en tant que salarié, c'était d'être un super manager et pas du tout une commerciale. Donc la création d'entreprise allait me mettre en difficulté et c'est pas là où j'allais pouvoir performer en utilisant mes compétences. C'est pour ça que je me suis tournée vers la reprise, parce que la reprise, quand on reprend une entreprise comme Espace Propreté, il y a déjà des salariés. Donc le vecteur managérial, ma compétence managériale, elle pouvait être tout de suite utile pour la reprise de l'entreprise. Et les clients étant déjà là, j'avais pas besoin de faire de prospection commerciale. Donc j'avais pas besoin je me mettais pas en difficulté en fait tout de suite. Il fallait bien que je fasse la prospection à un moment donné ou à un autre. Mais en tout cas, il n'y avait pas la nécessité. La réussite du projet, elle ne tenait pas sur ça, quoi. Elle tenait plus sur ma compétence, qui était la compétence managériale. Donc, c'est pour ça que je me suis tournée vers une reprise d'entreprise. Et ensuite, pourquoi Espace Propreté ? C'est une rencontre. J'avais défini que je voulais plutôt une entreprise de service. que j'avais envie que ce soit plutôt des gérants qui partent à la retraite parce qu'ils ont un temps de, ils peuvent plus, un temps d'accompagnement en fait qui est en général un peu plus confort. Ils ont le temps de transmettre les choses à leur rythme et ils sont pas pressés par le projet suivant en fait. Donc l'idée c'était ça. Et j'ai rencontré par hasard Sylvie et Michel Dotto parce que je faisais du théâtre avec leur fils. Et en fait, ça a tout de suite matché en termes de valeur. Ça a été vraiment le point de départ, en fait. Les premières fois où on s'est vus, on n'a parlé que valeur. On n'a pas parlé argent du tout. Et on s'est mis à parler argent qu'au bout de 2-3 mois, alors qu'on se voyait peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, juste pour discuter de quelles sont les valeurs qui nous portent à chacun, c'est quoi qui est important pour l'entreprise, comment on voit le management. Enfin voilà, ça a été des sujets qu'on a abordés à plusieurs reprises en fait au cours des différentes rencontres avant de se poser vraiment le prix de combien ça va coûter quoi.
D'accord, c'est intéressant comme réflexion parce que là c'est il y a pas du tout cette pression effectivement que toi tu peux ressentir de se dire bon bah oui il faut que je reprenne tout de suite maintenant et puis ensuite voilà t'as les clés et puis
une reprise d'entreprise enfin sauf quand c'est à la barre du tribunal de commerce ça prend en moyenne 18 mois entre le moment où on rencontre le cédant et le moment où on signe effectivement. Nous on l'a fait en 10 mois donc d'une certaine manière on l'a fait assez rapidement. Après chaque reprise d'entreprise a son histoire hein. Et pour une entreprise comme Espace Propreté, on a eu le temps de faire les choses posément, de les faire de manière très propre. Et les anciens gérants d'Espace Propreté étaient des gens qui portaient vraiment ces valeurs-là, de manière très discrète, mais les portaient sincèrement. Ce qui fait que j'ai repris une entreprise qui était telle qui me l'avait présentée. Il n'y a pas eu le phénomène de l'expression « on habille la mariée ». Elle était normale, la mariée. Elle était telle que je l'avais vue, en fait. Il n'y avait pas eu besoin de la customiser avant la reprise. Parce que ça faisait partie aussi de leur valeur d'être dans quelque chose de sincère et d'être dans le respect, en fait, dans les relations humaines. Même si c'était pas exprimé comme c'est exprimé aujourd'hui, c'était juste quelque chose de super naturel pour eux, en fait, dans leur mode de fonctionnement.
Et est-ce que tu te souviens de, justement, ce qui a fait que ça a bien accroché quand tu dis les valeurs, etc., c'était quoi en particulier ?
C'est le fait que être agent d'entretien, c'est un métier qui est très difficile. Et malgré le fait que moi, j'ai jamais été agent d'entretien, j'avais de suite la sensibilité que c'est des personnes dont il faut vraiment respecter le travail et respecter l'abnégation. Enfin, c'est un métier qui est pas reconnu en fait dans notre société, ou qui est reconnu de manière un peu négative. On n'est pas très fiers quand on est gamin de dire que nos parents sont agents d'entretien ou vulgairement femmes de ménage. Alors qu'on est beaucoup plus fiers de se dire fils de notaire ou fils de médecin ou fille de médecin, mais pas que des fils. Et donc c'est vrai que ça a été rapidement sur ce point-là en fait où il y a eu un rapprochement parce que je pense qu'ils se sont rendus compte que pour moi c'était normal de mettre ces métiers en valeur et voilà que c'était des métiers qu'il fallait vraiment respecter. Et que d'ailleurs le gros du commercial aujourd'hui il passe par là. Je vends pas une prestation de nettoyage. C'est pas quelque chose de froid. Je suis pas en train de vendre un objet en fait. On vend un service qui est réalisé par des humains. Et donc il y a tous les aléas qui sont liés aux humains. Et donc finalement j'ai plutôt tendance à dire que je vends du bien-être au travail pour les salariés de mes clients parce que quand mon salarié il est heureux dans son job et qu'il prend soin de l'espace de travail des salariés de nos clients, eh ben il va participer à la performance de l'entreprise de nos clients par ce biais-là en fait.
Mais c'est intéressant, ça me rappelle une entreprise que j'avais interviewée dans le podcast qui s'appelle SoCaps et en fait ils avaient décidé dans leur comité de mission d'avoir le dirigeant de l'entreprise qui s'occupe de leurs locaux, du nettoyage de leurs locaux, justement en se disant pour qu'on soit vraiment exemplaire, faut qu'on soit exemplaire avec tout le monde et également avec les agents d'entretien qui sont dans l'entreprise. Et si eux vont bien, ça veut dire qu'ils, a priori, font du travail de qualité qui ensuite découle sur nos propres salariés aussi. Donc, c'est intéressant comme réflexion. Et quand t'as repris l'entreprise, c'était quoi les axes de développement? Parce que quand on reprend une entreprise, forcément, c'est pas pour faire iso-périmètre, on fait exactement la même chose.
L'avantage de reprendre une entreprise de deux personnes qui partaient à la retraite, C'est qu'en fait, il y avait plein de modernité à apporter à l'entreprise de manière très facile. Il n'y avait pas besoin de révolutionner complètement l'entreprise. Le socle était très sain. Mais par exemple, il n'y avait pas d'application de pointage pour nos salariés. Donc c'est quelque chose que j'ai pu mettre en place en 2019. Et comme je trouvais pas l'application que je voulais, ben je l'ai co-développée avec deux clients d'Espace Propreté. Le système informatique, voilà, il était un peu ancien, je pouvais pas me connecter de chez moi, etc. Donc j'ai investi dans un système informatique qui me permet de travailler de manière plus nomade et qui permet aussi à nos salariés qui sont pas les agents d'entretien, enfin toute l'équipe administrative, de travailler de manière nomade. Alors aujourd'hui, tu peux avoir le sentiment que mes locaux ils sont quasiment vides, mais parce qu'il y a trois personnes en télétravail en fait.
Ça, non, c'est presque rare de voir des bureaux où tout le monde est présent.
Mais hein. C'est ça, complètement. Et en fait, ça nous a d'ailleurs permis, au moment où il y a eu le Covid, d'être d'une agilité redoutable, parce qu'en fait, j'ai juste eu besoin de distribuer des ordinateurs portables, même des vieux ordis, j'ai ressorti des vieux trucs pourris, mais ça suffisait, en fait, il suffisait d'avoir une bonne connexion Internet et tout le monde pouvait travailler de la maison. Et du coup, nous, on s'est retrouvés en situation de pouvoir travailler là où nos propres clients, qui étaient des entreprises beaucoup plus grosses, plus riches, avec des systèmes, avec une DSI, avec des services support, et ben eux, ils n'étaient pas en capacité de le faire parce qu'ils n'avaient pas eu cette agilité, quoi. Donc voilà, ça fait partie des choses. Il y a aussi la communication qui avant était très discrète et qui était à l'image des anciens dirigeants, qui était vraiment sur toute la technique et sur le sérieux de l'entreprise. Et moi, je l'ai un peu décalé, en fait, la communication, puisque notamment sur Facebook, on va être sur des choses un peu fun. Je parle pas trop de technique, je parle plus de nos clients, parce que je me dis que raconter qu'on a acheté un nouveau produit pour faire les sols, ben, je me dis que... Moi, en tant que cliente, j'en aurais rien à faire. Et je trouve ça beaucoup plus sympa de savoir comment ça se passe chez nos clients ou de partager des commentaires clients ou de proposer... on fait des goodies aussi, par exemple. Donc, on a un calendrier tous les ans qu'on distribue à nos clients dans lequel on propose des activités à faire au bureau, concours de pull moche pour Noël. Et du coup, ce mode de communication un peu rigolote, un peu fun, on l'a aussi sur nos réseaux sociaux, pas sur LinkedIn, parce que LinkedIn reste... un réseau un peu plus axé sur le côté professionnel, management, gestion d'entreprise. Ça va plus être sur le côté YouTube ou bien sur Facebook.
D'accord. Et là, de ce que je comprends, il y a quand même, alors effectivement pas une révolution de l'entreprise, pas une transformation profonde, mais quand même un nouvel état d'esprit, une nouvelle manière d'organiser, etc. Et quels ont été les leviers que tu as actionnés ou les compétences humaines que tu as dû mobiliser? Est-ce que tu as... Il y a certaines personnes qui ont eu du mal avec cette nouvelle manière-là aussi?
En fait, j'ai jamais utilisé le mot « changement ». Depuis le début, j'ai expliqué qu'on allait moderniser l'entreprise, mais que rien n'allait changer. Et en réalité, rien n'a vraiment changé. Les choses ont glissé tout doucement. Donc, en effet, certains salariés, à un moment donné, se sont plus retrouvés dans le nouveau fonctionnement de l'entreprise. Et en fait, naturellement, ils ont quitté l'entreprise, mais sans qu'il y ait de heurts ou juste parce qu'ils s'y retrouvaient pas. Et c'est normal, quand il y a une reprise, on n'est pas forcément dans le fonctionnement de l'ancien dirigeant, quoi. Du nouveau dirigeant, pardon. Je passais de l'ancien au nouveau dirigeant, ça demande une forme d'adaptation, et on n'est pas toujours prêt, et puis voilà, le nouveau contrat avec le nouveau dirigeant, on n'est pas préparé, on ne sait pas ce qu'il va nous proposer, on ne sait pas si ça va nous convenir. Mais globalement, la plupart des salariés sont restés dans l'entreprise. Hein. C'est anecdotique, les salariés qui ont décidé de se séparer de nous parce que mon mode de fonctionnement ne leur convenait pas. Pour la plupart... notamment les plus jeunes, ils se sont retrouvés dans une entreprise dans laquelle ils se reconnaissent plus, parce que finalement il y a un mode de fonctionnement qui est plus proche d'eux. Aujourd'hui ils peuvent pointer avec leur téléphone, ça leur semblait hyper archaïque de devoir pointer avec un papier et un crayon sur une feuille, en fait.
On va revenir sur cette dimension humaine, parce que t'as beaucoup axé l'entreprise dessus, et surtout on est dans un secteur où, par exemple, la formation elle est quasi inexistante dans beaucoup d'entreprises, du nettoyage.
Et pourtant. Notre branche est extrêmement dynamique. On a la chance d'avoir un OPCO qui est très bien financé, en fait, et qui nous finance énormément de formations. Je suis très surprise que beaucoup d'entreprises de nettoyage utilisent pas tout le panel, enfin en tout cas une partie du panel. Moi, je sais que j'arrive pas à en utiliser, peut-être j'en utilise même pas 50%, alors qu'on fait déjà beaucoup de formations dans l'entreprise. Je pense que c'est peu connu aujourd'hui par les entreprises qui sont pas les entreprises de propreté, mais on est un secteur très dynamique dans la formation. On est très dynamique dans toute la réflexion sur la RSE. La Fédération des entreprises de propreté essaye d'embarquer les entreprises dans cette logique-là. Malheureusement, je constate que malgré tous ces outils, beaucoup d'entreprises voient pas forcément l'utilité d'y aller, ou ils vont un peu mollement, ou certains, pire encore, sont dans des logiques de RSE washing en pensant que c'est juste un argument marketing. Mais y a énormément de choses, et notamment il y a une école qui est fantastique qui s'appelle LINI. On a plusieurs alternants, nous, qui sont alternants à LINI en ce moment. Et ils forment des
donc,
personnes.
LINI, c'est?
LINI, c'est, alors, je sais pas ce que ça veut dire exactement. INHNI. C'est, donc, ils sont situés à Marseille ou à Toulouse. C'est un peu l'inconvénient, ils sont un petit peu loin. Mais ils peuvent former, des salariés pour les entreprises de propreté du CAP au bac plus 5. Et les deux dernières années, les deux années de master, c'est deux années où ils ont un double diplôme avec l'IDRAC. Donc ils sortent, enfin voilà, c'est très sérieux. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de professionnaliser énormément notre métier. Et c'est des choses qui existent depuis assez longtemps, en fait. Le côté artisanal de notre métier, artisanal, je parle dans le sens gestion, un peu avec peu d'écrits, avec peu de process, etc. C'est aberrant d'être encore là-dedans aujourd'hui. Parce que on a tous les outils pour nous accompagner, pour nous aider à faire les choses, bien et carrées tout de suite, quoi.
Ouais, non, mais je comprends bien, effectivement. Et puis en plus, c'est vrai que c'est finalement un métier qui évolue quand même pas mal avec l'utilisation de nouveaux produits. Il y a des nouvelles techniques, etc. Donc c'est vrai que là, pour le coup, normalement, la formation devrait être, en tout cas, un recours assez naturel. Et par rapport, tu disais, moi, ma force en tant que salarié, c'était le management. Donc qu'est-ce que t'as insufflé, toi, au sein de l'entreprise, d'un point de vue managérial, d'organisation? Qu'est-ce qui a un peu changé pour toi?
Alors, ce qui a changé pour l'entreprise, pour moi, c'est que j'ai enfin pu manager comme j'aime manager. Quand j'étais salarié, j'ai toujours managé des équipes. J'avais 13 ans de management. Depuis mon premier poste, je manageais une équipe d'une trentaine de personnes. L'Espace Propreté avait 28 salariés quand j'ai repris. Donc, j'étais dans ma zone de confort en nombre de personnes à manager. C'est important aussi, ça, dans mes critères de reprise. Et donc, j'avais jamais pu manager avec le feeling, avec mon feeling, qui était de dire je vais faire complètement confiance aux humains, à chaque humain, parce que je pars du principe que chacun des salariés de l'entreprise n'est pas un enfant de 5 ans, c'est un adulte responsable qui a signé un contrat de travail et qui est dans une relation adulte-adulte avec l'entreprise et par extension avec moi. Et donc, à partir de là, j'ai pu vraiment mettre en place ce mode de management-là. Ça peut paraître froid comme ça, mais en réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut être dans quelque chose de très sympathique, etc., mais chacun sait où sont ses responsabilités, sait quelle est sa marge de manœuvre. L'idée, c'est de poser un cadre et de dire à la personne, au milieu de ce cadre, t'es responsable, t'es libre, éclate-toi. Ça marche très très bien avec l'équipe d'encadrement qui encadre les agents d'entretien. Ça marche très bien avec certains agents d'entretien qui ont compris que, à l'intérieur d'une prestation, d'un cahier des charges, ils ont quand même des marges de manœuvre. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a des personnes, ce mode de management-là, ils le regardent un peu apeurés. Il faut les rassurer pour leur montrer qu'il n'y a pas de piège derrière, en fait. Par exemple, nous, le télétravail, c'est pas moi qui définis les jours de télétravail. Chacun me signifie s'il a besoin ou pas d'être en télétravail. Juste ça, parce que regarde sa mission ou regarde sa vie perso, ça peut arriver. Tout bêtement, on me dit des fois, je me fais livrer un meuble tel jour, est-ce que je peux être en télétravail ce jour-là? Oui, enfin, s'il n'y a pas de nécessité à être au bureau, il n'y a pas de problème en fait. Donc il y a quelque chose de hyper décomplexé dans ce mode-là. Je veux juste être au courant de qui est présent et qui n'est pas, quoi.
Oui, bien sûr. Et ce que je me souviens, j'avais échangé il y a quelques années avec une autre entreprise, alors qui est plutôt dans le nord de la France, s'appelle Clinitex, et m'avait expliqué le fonctionnement. Alors, je ne sais pas si c'est le même pour Espace Propreté, où l'équipe d'encadrement, c'est vraiment Espace Propreté, et ensuite les agents d'entretien sont dans les entreprises, mais ils ont un contrat avec le site de l'entreprise. Donc, il y a une relation qui est un peu différente. C'est pareil.
Ouais, alors c'est la convention collective de la propreté qui le prévoit. Donc les salariés sont nos salariés. Par contre, dans leur contrat de travail, ils sont attachés à un site d'intervention, à un site client. Mmh. Et de fait, si le client change de prestataire, le salarié, il reste sur le site et il bascule sur le nouveau prestataire avec un certain nombre de conditions. Pour moi, c'est une opportunité dans notre métier. Parce que c'est ce qui permet, déjà, ça permet aux salariés de maintenir leurs emplois sans être ballottés au gré des...
De site à site.
Ouais, de site à site. Et surtout, c'est principalement pensé pour les appels d'offres. Parce que il faut avoir un certain volume d'heures. Il y a quand même des... Si c'est pour une heure par semaine, il n'y a pas de reprise de salarié, en fait. Hein. Ça veut dire, il faut qu'il y ait un volume d'heures minimum, un pourcentage du temps de travail, enfin, un temps passé dans l'entreprise. Enfin, il y a un certain nombre de conditions à respecter. Mais là où ça protège énormément le salarié, c'est que un salarié qui interviendrait, par exemple, dans un hôpital, si l'hôpital change de prestataire, eh ben, le salarié ne perd pas son travail en licenciement économique. Et du coup, l'agent d'entretien ne se retrouve pas dans la démarche de devoir, à nouveau, se remettre sur le marché de l'emploi. Enfin, c'est pas un drame pour nos agents d'entretien. Ça reste une opération commerciale entre un hôpital et ses prestataires. Pour le prestataire qui perd le contrat, c'est une magnifique opportunité. Il n'a pas besoin de faire un licenciement économique. Oui. Il perd de fait le nombre d'heures salariées correspondant à la perte de son contrat. Donc, c'est beaucoup de démarches en moins à faire pour le prestataire qui perd le contrat. Pour le prestataire qui récupère le contrat, bon, des fois, pour lui, ce n'est pas une affaire.
Bah oui, parce que
il récupère des salariés qu'il ne connaît pas.
Bah oui, c'est comment est-ce que tu arrives à maintenir un peu une culture d'entreprise, à essaimer
ça dépend des entreprises, mais chez Espace Propreté, on répond à très peu d'appels d'offres. Et nous, on est, comme tu l'as vu, on est à côté de la gare de Montpellier, on est au centre-ville. Et on a une grosse majorité de nos clients qui sont situés dans le centre-ville. On a à peu près 50% de nos salariés qui interviennent que dans le centre-ville de Montpellier ou dans des endroits accessibles en transport en commun. Et donc, du coup, notre typologie de clients, nous, c'est des petits bureaux. Donc, on a très peu ce phénomène qu'on appelle annexe 7 dans le métier, dans le jargon. On a très peu ce phénomène, en fait, de jongler sur les contrats. Donc, ça nous arrive, ça nous est arrivé 2-3 fois. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, on a récupéré un nouveau client. On a signé un nouveau contrat client et on a récupéré les 2 salariés attachés au contrat. On est vachement contents en plus parce qu'ils sont très bien et du coup ça nous permet aussi de leur proposer des heures chez d'autres de nos clients. Donc là on a eu de la chance, on a trouvé 2 personnes plutôt chouettes. Mais d'autres fois c'est arrivé que on ait des salariés qui conviennent pas et là on rentre dans une négociation avec le salarié pour s'en séparer ou pour lui proposer autre chose qui lui conviendrait mieux peut-être.
D'accord. Et comment ça s'est passé au fur et à mesure aussi cette notion de responsabilisation, d'autonomisation un petit peu, alors autonomisation peut-être pas mais surtout responsabilisation, est-ce que t'as senti qu'il a fallu quand même pousser un petit peu, certaines personnes étaient réticentes parce qu'elles n'avaient pas du tout l'habitude, comment ça s'est passé?
Ouais, il a fallu amener certains en fait là-dedans. Déjà la première chose c'est le management, c'est l'équipe, c'est les chefs d'équipe, c'est la personne, c'est les N+1 en fait. Parce qu'entre moi et les agents, aujourd'hui, il y a des chefs d'équipe. Donc déjà, avec les chefs d'équipe, c'est beaucoup de... Au démarrage, en tout cas, ça a été beaucoup d'échanges, beaucoup de formation de ma part sur qu'est-ce que c'est que le management et le fait, notamment, quand je dis que nos salariés ne sont pas des enfants de 5 ans, c'est parce qu'en fait, moi, je ne supporte pas que des managers se permettent de crier sur les gens, ne laisse pas les gens s'expliquer, considère que de toute façon mon équipe c'est tous des abrutis, enfin c'est des choses pour moi aujourd'hui, enfin on peut pas traiter les humains, on peut pas traiter les autres adultes de cette manière là, on n'est pas là pour éduquer nos salariés, on est là pour les accompagner sur une prestation qu'ils doivent réaliser chez nos clients et ils la réaliseront pas bien s'ils sont stressés. Et s'ils ont peur de leur chef, c'est pas une bonne manière pour moi de manager, en tout cas en 2022. Donc déjà, il a fallu accompagner les chefs d'équipe pour leur dire aujourd'hui, je veux plus qu'on crie sur les gens. Je veux pas qu'on soit dans un mode de management qui soit pas questionnant. Pour moi, quand quelque chose n'est pas fait comme le veut le client, la première chose à faire, c'est de dire à l'agent d'entretien, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je vous avais demandé de faire ça? Pourquoi vous l'avez pas fait? Plutôt que de suite de lui rentrer dedans en disant, c'est inadmissible, enfin, vous serez sanctionné. Déjà, faut comprendre. Alors après, des fois, en effet, c'est inadmissible et la personne est sanctionnée parce que on est dans une prise de responsabilité. Et que la personne qui, tout bêtement par exemple, les personnes qui mentent, qui trichent sur leur pointage, c'est très facile de tricher sur les pointages chez Espace Propreté. Aucun problème. Ceux qui trichent, ils trichent une fois. Mais en général, ils font rapidement plus partie de l'entreprise. Parce que c'est pas un mode de fonctionnement que je veux en fait. Donc les nouveaux, souvent ils se disent « Oh génial, le mode de pointage est super fastoche, c'est du déclaratif. » Ouais, c'est déclaratif. Mais ça me permet de voir si on peut te faire confiance en fait. Et donc, il y a aussi une pratique, par exemple, chez Espace Propreté. Je pense qu'on est les seuls aujourd'hui, enfin, à ma connaissance, on est les seuls à pratiquer les choses ainsi. On pratique que des contrôles de salariés avertis. On n'a pas de contrôle surprise. Je m'explique. Dans le monde du nettoyage, beaucoup d'entreprises sont très fières d'annoncer à leurs clients « Vous inquiétez pas, je ferai que des contrôles surprise pour vérifier si le travail est bien fait ». Moi, je trouve ça hyper stressant pour un agent d'entretien. On se permettrait pas de le faire dans d'autres métiers. Est-ce qu'on se permettrait de rentrer dans le bureau d'un DRH en disant « il me faut la GPEC tout de suite, là. Allez, hop, allez. T'en es où sur les visites médicales ?» Enfin, c'est pas possible. En général, quand on rentre dans le bureau d'un collaborateur, on va lui dire bah, « pour tel jour, il faudrait que tu me fasses un point sur tel et tel dossier. » Mais enfin, et on se retrouve à faire ça vis-à-vis des agents d'entretien parce qu'on considère que finalement, ils sont en bas de l'échelle alimentaire. Enfin, je caricature hein, volontairement, et que du coup, ben, ils vont chercher à gruger. Mais non, la plupart, ils ne cherchent pas à gruger, ils cherchent juste à faire leur travail correctement. Et quand on les prévient qu'ils vont être contrôlés, le gros avantage, c'est que du coup, ils ont le temps de s'y préparer, ils ont le temps d'échanger avec leur chef en disant bah, « si tu viens mardi, ramène-moi tel et tel produit, j'ai une difficulté sur telle tâche, justement, ça tombe bien que tu viennes mardi, il y a du café qui est tombé dans la salle de réunion, j'arrive pas à l'enlever, est-ce que t'as pas un produit ?» Donc il va y avoir cet échange. Le chef d'équipe, quand il arrive sur le site, eh ben, il a pas le mauvais rôle, il a le rôle de celui qui vient pour constater que les choses sont bien faites. En général, le salarié, il va tout faire pour montrer à son chef qu'il a bien bossé. Les locaux vont être propres. Mais moi, c'est mon intérêt que les locaux soient propres, c'est que mes clients soient contents. Donc, des fois, on me dit, ouais, mais ils vont être propres une fois. Bah, ça dépend de tous les combien on fait des contrôles, en fait. Donc, si on rapproche un peu les contrôles, et puis le fait qu'au moins une fois, au moins il y a le contrôle, c'est vraiment bien propre, bah, c'est plus facile de maintenir propre pour le salarié jusqu'à la fois d'après, en fait. Et ça va être le boulot du chef d'équipe de lui faire comprendre qu'il faut être un peu malin et pas attendre le contrôle pour se speeder et tout faire. Donc, ça va être là-dedans. Et surtout, 95% vont être bons et il y a 5% ou des petits détails qui vont pas. Et là, il y a une vraie action managériale, une action de formation. Ils ont des fiches, tous les chefs d'équipe ont des fiches de formation interne. Et ça va être l'occasion de dire, alors, je vais vous expliquer comment on nettoie un ascenseur. Je vais vous expliquer comment enlever le calcaire dans un lavabo. Et là, il y a une vraie action de formation qui fait monter le salarié en compétences. Et tout le monde part content de ce genre de choses. Il y a un effet auquel j'avais absolument pas pensé, un petit effet pervers, c'est que certains salariés, les meilleurs, se plaignent de pas être assez contrôlés. Donc du coup, les chefs d'équipe se retrouvent à courir des fois pour faire plaisir à certains salariés, à leur faire des contrôles. Parce que les salariés râlent en disant « ça fait longtemps que vous m'avez pas contrôlé ». Ils y voient aussi l'intérêt, leur intérêt, les salariés, du coup, à réclamer des contrôles parce qu'ils savent que le chef d'équipe va apporter un œil neuf. Et que des fois, cet œil neuf, quand on fait tous les jours le même boulot, eh ben, on le perd un petit peu, en fait.
Bien sûr.
Donc, du coup, ça va faire remonter la prestation en qualité.
D'accord. C'est intéressant. C'est rare, hein, ce genre de situation où on veut plus de contrôle. Oui. Mais...
j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns qui réclament.
Avant de poursuivre l'épisode, je voulais vous parler d'une nouvelle série que je vais lancer sur le podcast de questions-réponses sur l'entreprise à mission. Si vous posez des questions sur la démarche, que vous soyez en réflexion, mais qu'est-ce que c'est vraiment une entreprise à mission? Quelle est la différence entre vision, ambition, mission? Que vous soyez en train de mener cette démarche, comment trouver une bonne raison d'être, comment articuler ses objectifs, ou que vous soyez déjà société à mission, comment embarquer mes collaborateurs, comment bien animer mon comité de mission, comment articuler ma plateforme de marque avec ma mission, je vous propose qu'on en discute dans un épisode. En fait, je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à avoir les mêmes interrogations, à rencontrer les mêmes situations, à partager les mêmes doutes. Donc venez échanger au micro. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn ou par email. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. Alors bien sûr, on pourra ne pas mentionner le nom de votre entreprise si vous le souhaitez, mais partageons nos connaissances. C'est vraiment l'objectif de ce podcast. Des bonnes pratiques, mais également des questions et des doutes. J'ai hâte d'échanger avec vous. À très bientôt. Et je laisse place à la suite de l'épisode.
Je te propose qu'on parte sur l'entreprise à mission,
ouais.
Parce que donc Espace Propreté est passé société à mission en février 2022, donc il y a 10 mois maintenant, quasi jour pour jour on se parle. Déjà, pourquoi avoir fait ce choix?
Alors en fait, à la base, c'est à cause d'un client qui m'a vexé. Il m'a dit qu'il nous quittait parce qu'il avait trouvé une société plus RSE que nous. Et quelques jours après, on me remettait le prix d'entrepreneur responsable à la Chambre des métiers, prix que je suis la seule entreprise de l'Hérault à avoir obtenu en propreté. Je me dis, merde, j'ai trouvé une autre entreprise plus RSE que moi à Montpellier. Et donc, je réalise que je communique mal auprès de mes clients, en fait. Que le reste du monde est au courant qu'on fait de la RSE, qu'on a des valeurs et qu'on met plein de choses en place, mais que, type, bêtement, je suis pas arrivée à communiquer à mon client qui est très content des prestations, qui a pas de débat sur le prix. C'est juste que il pense pas que l'espace propreté peut être un des acteurs du développement de sa politique RSE. À partir de là, je me suis inscrite à une formation organisée par la branche propreté qui s'appelle RSE Propreté. Donc c'est une formation qui est géniale. C'est 8 mois d'accompagnement. Il y a tout un référentiel qui a été créé par la branche propreté, dans lequel il y a 18 piliers en fait propres à notre métier, axés, enfin qui sont orientés sur les 7 piliers de la RSE, pour nous aider vraiment à mettre en place un certain nombre de choses et nous auto-évaluer. Quand j'ai fait cette formation, déjà j'ai pu réaliser le niveau de maturité d'Espace Propreté en termes de RSE par rapport aux autres entreprises. Alors quand même, juste pour te donner un ordre d'idée, Montpellier, ça compte à peu près 450 entreprises de propreté.
Oui, parce qu'il y en a quoi, 40 000 en France.
Je crois que c'est 40 000 en France, un ouais. Truc du genre. Enfin, je suis pas sûre et certaine du chiffre, mais c'est à peu près l'ordre de grandeur. Il y a à peu près 450 entreprises avec le même code NAF que moi à Montpellier. Et quand je fais cette formation, qui regroupe des gens entre Perpignan et Nice, on est 12. Je me dis, waouh, en fait, c'est rien du tout, quoi. On est très, très peu d'entreprises à s'intéresser et à se mettre dans cette démarche. Bon, il y a une formation comme ça tous les ans, mais même 12 par an, avant qu'on ça balaye l'ensemble des entreprises de propreté. Enfin, il y a du chemin. Et parmi les 12, je me rends compte que je fais partie des 2-3 entreprises les plus matures, en fait, sur les notions de RSE, avec beaucoup de choses qui sont mises en place. Et un détail bête, c'est que moi, je fais partie des quelques entreprises dont le dirigeant suit la formation. Pour beaucoup d'entreprises, on envoie la gestionnaire RH, parce qu'on se dit que la RSE, bah, c'est des ressources humaines, ou on envoie la personne qui gère la com, parce qu'on se dit que la RSE, c'est de la com, ou on envoie un ancien cadre, on ne sait pas où le mettre, et du coup, on l'a collé responsable RSE, mais il ne sait même pas ce que c'est, en fait. Et donc, du coup, moi, je sens bien que non seulement il y a mon investissement à moi, mais qu'en plus, il y a un niveau de maturité qui est sympa. En parallèle, on a droit à, pendant cette formation, on est accompagné pour la labellisation AFNOR. Et là, je rentre pas dans les cases. Ça m'agace. Et si je veux rentrer dans les cases, ça va me demander vachement de travail. Et je me dis, à quoi bon? J'ai quitté le salariat, notamment parce que on me demandait de rentrer dans des cases qui n'étaient pas les miennes. Aujourd'hui, Espace Propreté est assez innovant en termes de ressources humaines et de pratiques RH, entre autres, et de comportements aussi avec nos clients. On est innovant sur plein de choses en termes de RSE, mais c'est toutes ces choses innovantes, elles rentrent pas dans les cases d'un label. Et donc, je me suis dit que finalement, sur le chemin de l'entreprise vertueuse, il y avait trois... Pour moi, en gros, pour aller vers l'entreprise plus vertueuse, on a trois moyens différents de voyager, quoi. On peut soit être dans une entreprise dans l'économie sociale et solidaire, on peut être dans une réflexion de labellisation, ou bien pour moi, on peut être société à mission. C'est notre manière, c'est notre voie, finalement, notre chemin à emprunter pour aller vers une entreprise plus vertueuse. Et donc, c'est comme ça que, un peu par défaut, finalement, je me suis tournée vers la société à mission en me disant que d'une certaine manière, j'allais créer la case dans laquelle j'allais rentrer, en fait.
Oui, parce que là, pour le coup, c'est toi qui détermine ton cadre et tes priorités.
Complètement.
Et comment est-ce que t'as travaillé pour formaliser un petit peu cette mission? Parce que alors, j'ai quand même un peu préparé l'entretien, donc j'ai vu qu'il y a eu un enthousiasme assez rapidement, en fait.
Mais ouais, j'y m'y attendais pas. Dans nos pratiques innovantes, outre les contrôles, comme je t'expliquais, on a une autre pratique innovante, c'est celle de contourner la journée de solidarité, d'en faire autre chose, d'utiliser cette journée de solidarité que toutes les entreprises ont en horreur parce qu'on a l'impression que c'est un jour, on vient bosser un jour férié, c'est nul. Et ben chez Espace Propreté, c'est une journée d'équipe. C'est une journée où nos agents d'entretien qui n'ont pas l'habitude de se voir, se voient, on fait une journée tous ensemble, en général chez un de nos clients. On demande à un client de nous prêter sa salle de réunion. Je fais livrer les plateaux repas. Et c'est une journée où on va former nos salariés. Donc le matin, on est sur des sujets les moins fun, apprendre à lire sa fiche de paye, qu'est-ce que c'est un accident du travail, comment réagir face à du harcèlement moral ou sexuel. Après, on a tous les ans, il y a des thématiques qui changent aussi, qui vont changer en fonction de ce que propose le CSE. Par exemple, l'an dernier, on a parlé des produits d'entretien, bien savoir lire tous les pictos. Cette année, j'ai fait venir une coach sportive qui nous a appris les gestes d'économie d'effort pour se faire moins mal au dos, pour s'échauffer avant de démarrer une prestation, pour prévenir aussi les problèmes de canal carpien. Donc ça, c'est top parce que le problème de dos, ça touche les personnes des bureaux ou les agents d'entretien. Idem pour le canal carpien. Donc ça parlait à tout le monde. Donc on s'est retrouvés tous à faire de la gym pendant 1h30. Et l'après-midi est consacré à des choses un peu plus fun. La communication de l'entreprise, nos réseaux sociaux et la RSE. Et donc la RSE, l'an dernier, il y avait 32 salariés dans l'entreprise, ils sont 19 à être venus. Donc il y a quand même pas mal de succès sur cette journée. Ils l'attendent maintenant presque avec impatience d'une année sur l'autre. Et donc l'an dernier, je leur ai dit, écoutez, on va travailler notre raison d'être. Je leur ai expliqué ce que c'était la société à mission. Et on a commencé tous ensemble à énumérer les valeurs. Alors, il faut se dire que c'est très compliqué de le faire dans une entreprise avec des cultures différentes, des langues pratiquées différentes, certaines personnes qui sont obligées de traduire, parce qu'on a des salariés qui parlent couramment anglais ou couramment arabe et qui vont traduire, mais quand tu traduis un mot du français vers une autre langue,
ça perd parfois un petit peu de sens.
Et puis, tu le vois quand on écrit une raison d'être. Chaque mot a une valeur. On choisit pas un mot pour un autre en fait. Et donc du coup, voilà, c'est un exercice un peu rocambolesque, mais très sympa parce que du coup, il y a eu beaucoup de choses qui ont pu être dites des fois de manière très simple et très terre à terre. Et après, ça a été à moi de leur donner un peu de consistance. Mais en tout cas, les valeurs de l'entreprise, elles ont été clairement posées. Et il y a une ébauche de raison d'être qui a été écrite ce jour-là. Et à la suite de ça, il y avait notre alternante en communication qui, quelques jours après, elle débarque, elle pose sur mon bureau une charte des valeurs RSE. Et elle me dit, voilà, avec le truc qu'on a fait l'autre jour en journée de solidarité, moi j'ai reparlé avec les salariés et du coup j'ai formalisé tout ce qu'on s'est dit. Et il reste juste à remplir au début, j'ai prévu qu'il y ait le mot de la dirigeante, donc il te reste ça à faire en fait. Et je m'y attendais pas, c'était pas une demande de ma part en fait, ça a vraiment été un engouement des salariés d'aller dans ce sens-là, et c'est elle qui a formalisé les choses. Et quand en plus j'ai relu le document, à quelques petites choses près, on était dans le vrai, enfin on était dans ce qui me convenait. Donc voilà, il y a eu des petits ajustements, une priorisation dans les valeurs, enfin des choses comme ça, un ou deux détails qui ont pu être oubliés, mais vraiment on était sur des choses à la marge quoi. Donc super. À la suite de ça, j'ai organisé un comité de parties prenantes dans lequel j'ai invité tous nos clients, nos fournisseurs, des personnes extérieures à l'entreprise et tous nos salariés. Et 4 salariés ont souhaité y participer, dont le CSE. Et alors, il y a eu un débat absolument génial entre les clients et les salariés autour du mot « transparence », qui n'est plus aujourd'hui dans la raison d'être, mais qui était dans la toute première version. Parce que pour les clients, pour les salariés, la notion de transparence, c'était le fait de dire on se dit tout, on ment pas à nos clients, on ment pas aux salariés, on dit la vérité. Et pour les clients, c'est génial, on vous voit pas, vous êtes transparent. Et c'était pas du tout notre manière de voir la transparence côté salarié. Donc ce débat a permis du coup de retirer ce mot et de le remplacer par d'autres choses en fait.
Oui, parce que si on regarde un petit peu la raison d'être, hein, je vais la lire, je l'ai sous les yeux là, c'est centré sur l'humain, le respect et la responsabilité, nos équipes accompagnent chaque client pour lui permettre d'évoluer dans un environnement propre et sain et de se consacrer pleinement à son cœur de métier. C'est quand même je trouve que c'est une raison d'être qui est assez riche.
Ben merci. Et je suis fière parce qu'on est arrivé à résumer ça en une phrase. Je trouve que quand on regarde un peu les raisons d'être, quand on va sur l'Observatoire des sociétés à mission, par exemple, il y a des raisons d'être, elles font 8 lignes, elles sont hyper longues. Enfin, je me dis, waouh, il y a 4 phrases. Je me dis, il y a beaucoup de choses, quoi. Moi, je voulais qu'on soit sur quelque chose le plus court possible. Je voulais arriver à trouver l'essence, en fait, de notre raison d'être. La chose qu'on m'a opposée, par contre, dans cette raison d'être, qui ne va pas la faire évoluer pour l'instant, mais ce sera peut-être une réflexion dans quelques années, si je veux faire évoluer nos statuts, c'est de me dire qu'en fait, c'est plus un constat de ce qu'on fait que de ce qu'on veut devenir.
Effectivement, c'est la question, projection en fait, la question de projection.
C'est ça, il n'y a pas tellement de vision.
D'amélioration continue.
C'est ça. Mais je pense qu'au travers de ce constat, il y a de l'amélioration continue qu'on peut faire sur plein de sujets en fait.
Oui, bien sûr. Non, mais déjà, à partir de ça, il y a quand même pas mal de choses.
Ouais, je crois qu'on a déjà du boulot.
et alors, avant de commencer l'enregistrement, tu m'as dit, ah, mais on est en train de changer les objectifs. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé?
Comme tout bon pionnier, on fait les choses et après on revient dessus en disant c'est pas comme ça qu'on aurait dû faire et si ça avait été à refaire, je l'aurais fait différemment. Il faut comprendre que chronologiquement, quand on est devenu société à mission, les premières entreprises auditées par les OTI, les premiers audits n'avaient pas encore été faits. Parce que les premières entreprises qui ont été auditées, c'est celles qui ont été immatriculées en 2020. Donc elles ont été auditées en 2022. Et donc au 1er février 2022, il y avait autour de moi aucune entreprise que je connaissais qui était capable, enfin qui avait vécu
un audit.
Et donc j'avais pas du tout la notion du lien entre l'audit et les objectifs. Donc on s'était fait vachement plaisir, on avait rédigé 11 objectifs. donc ils étaient axés sur enfin, des choses qui sont pas illogiques, mais qui étaient pas forcément totalement rattachées, enfin, qui étaient pas singulières pour Espace Propreté. Et donc, quand je me suis inscrite pour faire partie de la communauté des sociétés à mission, ils ont eu la gentillesse de me faire un retour par rapport à ça. Donc, c'était déjà passé plusieurs mois, on devait être au mois de mai. Donc, depuis, il y avait eu des audits. Donc, ils avaient eu des retours d'OTI, etc. Déjà, ils m'ont annoncé que les OTI facturaient en fonction du nombre d'audits. Donc, ça veut dire que 11 audits.
Du nombre d'objectifs.
D'objectifs, pardon. Excuse-moi, ouais. Ils facturent en fonction du nombre d'objectifs. Donc, 11 objectifs, ça veut dire que l'audit, il va coûter super cher. Et puis surtout, il faut aussi mener tous les objectifs de front. Pour moi, c'était pas forcément clair, en fait, ce détail-là. Moi, je pensais que je me fais d'abord 3 objectifs cette année, j'en m'en ferai 4 l'année prochaine. Enfin, pour moi, il y avait plus un côté comme ça où on avance.
Tu n'es pas la seule.
Ben ouais, mais oui. Mais bon, c'est ça aussi d'être pionnier, c'est qu'en fait on essaye des choses et puis on fait un pas de côté, puis on revient et puis voilà, mais c'est pas grave. Hein. Le côté errance permet aussi de maturer l'entreprise et de maturer la mission de l'entreprise en fait. Et donc du coup, on a décidé cette année de refaire un travail sur les objectifs pour les réduire, en avoir plus que 4. Et donc il y a des séances de brainstorming qui ont été mises en place d'abord avec les équipes administratives, les équipes des bureaux. Ensuite avec les équipes terrain, puis avec les agents d'entretien. Et maintenant, on commence à le soumettre au reste du monde. Avec la plateforme RSE Occitanie, on a eu un super échange en début de semaine. On leur a soumis les 4 audits et ils sont venus un peu les challenger et tout ça. Et donc en fait, on a décidé d'axer les objectifs sur 4 thématiques. La première, c'est la relation client et le service qu'on apporte à nos clients, puisque c'est présent dans la raison d'être. Le deuxième, c'est toute la notion de communauté. C'est-à-dire de se dire qu'on a un rôle à jouer, quelle que soit l'entreprise, on a un rôle à jouer dans la communication et dans l'animation d'une communauté autour de la RSE. Et que ça va bien au-delà d'Espace Propreté que de parler de RSE, comme on le fait maintenant, par exemple. Ensuite, pour moi, il y a un objectif très clair sur l'innovation RSE-RH. Je pense que ça peut vraiment faire partie des avancements forts d'Espace Propreté. On le fait déjà et j'ai envie qu'on le pousse encore plus. J'ai plein d'idées. Il va falloir que les équipes me suivent. Et le dernier, c'est un objectif sur l'environnement que j'ai voulu... L'objectif sur l'environnement, il m'a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de réflexions, parce qu'en fait, je trouve ça un peu facile d'annoncer quand on est une entreprise qu'on va sauver le monde, on va sauver la planète et tout. Je trouve ça complètement démago et je me dis que c'est important d'avoir l'honnêteté de dire qu'on va faire les choses à son échelle.
C'est essentiel même. Hein.
On va pas faire des grandes choses, donc on n'est pas parti pour faire des choses très très ambitieuses en termes d'environnement, mais se dire qu'on va se fixer des objectifs à notre échelle pour réduire la gestion, pour mieux gérer nos consommables, pour être sur des choses plus réalistes, réfléchir à notre impact carbone, etc., mais de manière réaliste et des choses qui sont possibles de faire à notre échelle au niveau de l'entreprise. Ça sert à rien d'annoncer qu'on va planter une forêt, pour moi ça a pas de sens en fait.
Et tu disais quand on parlait de l'entreprise à mission que au début c'était parce qu'un client avait quitté Espace Propreté. Comment justement t'as communiqué auprès des clients le fait que vous passiez société à mission?
Eh ben on a fait un mail à l'ensemble de nos clients pour leur annoncer la bonne nouvelle. On leur avait déjà transmis en amont la charte des valeurs RSE. On a recommuniqué auprès des clients aussi quand on a eu les différents prix, puisque le prix ERE il est arrivé en juillet 2022. Donc à chaque fois, par le biais de mails ou bien quand on les rencontre, on commence à mettre le mot société à mission un peu partout sur nos éléments de communication. Donc là, cette année, sur les calendriers qu'on va remettre aux clients, il y aura écrit société à mission. Enfin voilà, on essaye de le faire par plein de moyens possibles en fait. Ouais.
Il y a une vraie exposition en fait vers l'extérieur.
Oui. Ouais. Mais ça rentre finalement dans l'objectif en rapport avec l'animation de la communauté RSE. C'est-à-dire de quelque part de laisser infuser, de dire bah voilà, on invite les gens à s'engager dans la voie qu'ils veulent, de la manière qu'ils le souhaitent en fait. Moi, peu importe qu'on décide de se faire labelliser, qu'on décide d'être société à mission, se revendiquer société à impact, je m'en fiche. Je dirais ce qui est important, c'est de se dire que aujourd'hui, il est impératif de faire du business avec des valeurs et de pas avoir honte de faire du business, de se dire qu'on est là pour avoir des entreprises qui gagnent de l'argent, parce qu'on a besoin de l'argent pour financer toutes ces actions en fait. Donc il y a pas de tabou sur ça. Et derrière, on peut quand même le faire en étant dans des relations de concurrence et pas de concurrence avec les autres acteurs de notre métier. On peut le faire en étant transparent dans nos pratiques, en essayant d'être le plus éthique possible. Et même au contraire, je trouve que ça nous rend plus performants. Et souvent, ça contribue clairement à augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise et à augmenter la marge, quoi.
J'espère que d'autres entreprises du nettoyage seront bien inspirées de se lancer aussi dans cette démarche-là.
J'espère aussi, ça me ferait bien plaisir.
Je te propose qu'on termine cet épisode avec une question un peu plus personnelle avant de passer à l'instant musical. J'ai beaucoup travaillé par le passé sur la personne du dirigeant, sur la nécessité de prendre soin de soi, et j'ai l'impression que pour toi le théâtre et l'impro plus particulièrement, c'est hyper important. Est-ce que tu arrives à trouver le temps de continuer à en faire aujourd'hui, et comment ça te libère un petit peu?
Alors au moment où on se parle, je fais une petite pause dans l'impro, mais je trépigne de reprendre. Une petite pause parce que j'ai, à titre perso, j'ai déménagé, donc gérer un déménagement en plus, il a fallu gérer les priorités. Et puis comme tu l'as vu, les nouvelles grisettes se sont installées sur la place de la Comédie, donc pareil, ça c'est un projet qui m'a demandé beaucoup de temps, donc ponctuellement là j'ai arrêté, ça me manque beaucoup. Je me rends compte que le théâtre d'impro fait partie complètement de mon cycle, contribue énormément à mon cycle de sommeil notamment. Parce que c'est un exercice qui permet de travailler son lâcher prise, et du coup ça permet vraiment de par moment d'ouvrir les soupapes en fait. C'est une forme d'extériorisation en fait, hein, de au travers de l'humour, parce que c'est une des manières, il y a plein de manières de pratiquer le théâtre impro, celle dans la voie de l'humour, celle qui m'amuse le plus. Donc voilà, donc c'est une manière aussi d'extérioriser. C'est un outil formidable de communication, parce que quand on a l'habitude de pratiquer le théâtre d'impro, on a une facilité à prendre la parole en public, on a la facilité à faire ce genre d'exercice comme on fait tous les deux, hein, d'enregistrer des podcasts ou de passer à la radio, facilité à rebondir des fois face à un client ou face à un salarié. Voilà, parce qu'il y a plein de techniques en théâtre d'impro qui permettent d'entraîner son cerveau à gagner du temps pour, enfin, à jongler un petit peu avec les mots pour pouvoir avoir le temps de réfléchir. Des trucs très simples. Des fois, il suffit de répéter la phrase de l'interlocuteur et ça laisse à notre cerveau le temps d'avoir trouvé la réponse à la question, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Et donc c'est quelque chose quand même, c'est hyper intéressant, hein, parce que c'est vrai que en soi, je trouve que l'impro c'est assez génial, je te rejoins complètement, et puis le côté libérateur peut ouais. être hyper intéressant aussi.
Et moi j'invite même, je dirais que j'invite tous les gens qui se retrouvent à un moment donné ou à un autre à devoir prendre la parole en public, à passer par le théâtre d'impro, qu'ils fassent de la scène ou pas. Je trouve que c'est un exercice qui est très abordable, tout le monde peut vraiment faire l'exercice, pas besoin d'être un acteur et pas besoin d'être très bon. Mais en fait, ça donne vraiment une souplesse au niveau du cerveau pour apprendre à gérer l'émotion, à gérer cette espèce de vague de trac qui te vient quand tu dois prendre la parole en public, qu'on a tous, qu'un improvisateur a aussi. Sauf que moi, j'ai appris à le dompter, j'ai appris à l'accompagner, j'ai appris à m'en servir. Et donc, j'ai aussi ce trac que tout le monde peut avoir. Sauf que des fois, je vais l'assumer d'avoir ce trac, et du coup, ça va dédramatiser la situation, ou je vais en jouer, parce que si ça fait monter une émotion, je vais pouvoir l'exprimer, mon émotion, enfin voilà. Je ne vais pas être paralysé par ce truc-là, quoi.
Ouais, très bien. Alors, je te propose qu'on passe à l'instant musical pour terminer cet épisode. Donc, je rappelle le principe, hein, l'invité choisit une chanson qui lui parle pour des raisons liées à notre échange ou d'autres éléments. C'est quoi ta chanson ?
Eh ben moi, j'ai choisi la chanson « Santé » de Stromae, parce que je trouve que pour une fois, il y a une chanson qui rend hommage aux métiers invisibles. Et les métiers invisibles, c'est ceux des agents d'entretien, mais c'est aussi ceux des nouvelles grisettes. En fait, je suis entourée de plein de gens qui sont invisibles et je trouve que c'est bien qu'on leur rende hommage.
Et juste rapidement, est-ce que tu peux préciser les nouvelles grisettes ? Parce qu'on en a parlé un petit peu, mais...
Nouvelles grisettes, en fait, c'est le premier tiers-lieu de la mode et du textile en Occitanie. C'est un projet un peu fou de 4 entrepreneurs qui n'avaient pas prévu de faire ça, dont moi. C'est un projet complètement bénévole, c'est du mécénat même pour Espace Propreté. Et aujourd'hui, c'est un tiers-lieu qui se trouve à Pérols, donc on est labellisé manufacture de proximité par l'État. On a 1000 m² à Pérols avec un restaurant d'insertion, un magasin avec que des produits textiles fabriqués en Occitanie et un atelier de couture qui est un peu disruptif puisque les personnes qui travaillent dans cet atelier sont pas salariées, c'est des pros de la couture qui viennent combler leur trou de planning, leur trou de business en venant fabriquer pour nous, en fait, pour les nouvelles grisettes. Donc les entreprises peuvent commander des tote bags, des t-shirts fabriqués par les nouvelles grisettes et ce sera fabriqué par ces prestataires couture qui sont des pros, qui ont leur propre marque, leur propre business et qui viennent combler des moments de fragilité dans leur carrière.
En tout cas, excellent choix de chanson.
Merci.
On va l'écouter.
Quoi les bonnes manières ? Pourquoi je ferais semblant ? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère ? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. 3 heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi ? Heureusement que c'est que de faire. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas.
Merci beaucoup Muriel pour cet échange et ces éclairages à la fois sur la reprise d'entreprise parce que c'est quand même une réalité aussi et c'est hyper intéressant. Je pense que c'est un projet que parfois certains veulent essayer mais savent pas trop comment s'y prendre. Et puis surtout un petit peu cette plongée dans cet univers qu'on connaît tous Parce que effectivement, quand on est en entreprise, on voit tous ces agents d'entretien et parfois on les reconnaît pas suffisamment, effectivement. Et puis un petit peu ce parcours de société à mission, et c'est intéressant de voir que tu revisites, que vous revisitez les objectifs de l'entreprise, parce que c'est quelque chose que je conseille souvent aussi. N'hésitez pas à le faire si vous pouvez le faire, parce que rouvrir les statuts n'est pas toujours simple. Mais quand c'est possible de le faire, autant le faire avant que l'audit arrive.
Ben merci beaucoup en tout cas pour cet échange très constructif. Merci.
Merci et à bientôt.
Merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser quelques étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify sur smartphone. Ça monte jusqu'à 5. Par ailleurs, si vous connaissez des invités qui pourraient être intéressants pour le podcast, que ce soit des entreprises ou des experts, n'hésitez pas à me contacter. C'est tout pour cet épisode. Je vous laisse découvrir les anciens et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode.